Nous recevons dans la seconde partie du magazine Nini Villegas à propos de son exposition Amuletum Scribe qui était visible à la médiathèque de Royères de Vassivière. Nous venons d'écouter un morceau de musique. Nini, bonjour.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Maxime pour m'avoir invité, accueilli aujourd'hui au magazine.
Eh bien, de rien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on vient d'entendre comme morceau de musique ?
Donc, on vient d'entendre Alfonsine et la mer, ou Alfonsine y el mar, de Mercedes Sosa, interprété par Mercedes Sosa. Donc, c'est un poème qui est inspiré en Alfonsine Storni Martinoni. Elle est une poétesse suisse-argentine née en 1892. Et voilà, c'est une poésie, c'est une dame qui a beaucoup donné à son pays, à l'Argentine. Elle a écrit pas mal de poèmes sur la mer et la mort. Donc c'était un des leitmotifs préférés d'Alfonsina Storni. Donc je te propose écouter un petit fragment de ce qui dit la chanson en français d'Alfonsina et la mer.
Alfonsina et la mer. Alors j'ai quelques paragraphes que je vais vous lire maintenant. Tu t'en vas, Alfonsina, avec ta solitude. Quel nouveau poème es-tu allé chercher ? Une voix lointaine de vent et de sel a charmé ton âme et l'emporté. Et tu t'en vas là-bas, comme dans un rêve, endormie, Alfonsina, et toute vêtue de mer.
Voilà. Donc, Alfonsina Storni s'installe pour la dernière fois dans un hôtel de Mar de Plata en octobre de 1938 et se suicide comme dans ses poèmes. Donc, il part dans la mer, il s'en va à retrouver tous ces êtres marins qui l'attendent. Et à cet propos, on a édifié une sculpture d'Alfonsine en face à la mer, là, en Mar de Plata, en Argentine. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a touchée et qui me touche et qui fait partie de ces écrivaines que j'ai souhaité hommager dans cette exposition à Milet Mescribe.
Car vous l'aurez compris, cette exposition fait hommage à plusieurs écrivains et écrivaines.
Oui, tout à fait.
Avant de rentrer peut-être dans le détail de cette exposition, on va te présenter toi, Nini.
Oui.
Enfin, tu vas te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Un peu peut-être ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à faire une exposition ?
Bon, je suis Nini Villegas, je suis colombienne. J'habite sur le plateau de Mille Vaches il y a 4 ans. Et à la base, j'ai fait mes études à la fac communication audiovisuelle. Et j'ai toujours été interpellée pour les gestes, pour les pinceaux, pour les couleurs. Malgré voilà, mes études et ma formation professionnelle, j'étais toujours très très proche des étudiants de Beaux-Arts, de l'Université d'Antioquia, l'Université nationale, de la Nacho, avec les combos de la Capilla, en train de peindre partout dans la rue, dans tous les villages, les hameaux, les villes où on pouvait peindre. Où on ne pouvait pas non plus peindre. Donc, ça a été assez tôt, cette curiosité, ces besoins d'exprimer quelque chose par les biais de pinceaux, des gestes, des couleurs. Et puis, je tiens à remercier aussi à Michel Delhomme, qui est mon maître des peintures. Michel, c'est un Français. C'est en Colombie il y a 40 ans, donc aujourd'hui il est plutôt colombien que parisien, mais il est devenu plus colombien que moi. Et puis c'est lui qui m'a vraiment, initié plus sérieusement sur ma démarche pictorielle vis-à-vis de... ma formation professionnelle des côtés et ma passion et cette envie de peindre. Donc j'ai arrêté l'université pendant un an. J'étais au quatrième année de communication audiovisuelle et je me suis dit je veux que peindre, dessiner toute la journée, tout le temps. Je veux que ça. Donc voilà.
J'ai vu dans ton parcours que tu as fait beaucoup de photos et de vidéos.
Ouais.
Et là, c'est de la peinture. Alors, comment on passe d'une image réelle à une image de représentation ? Est-ce qu'il y a des ponts entre ces deux univers qui sont les tiens ?
Ouais, tout à fait. Je pense que je pars des univers réels, des images réelles, mais qui viennent dialoguer aussi avec un univers qui m'habite. Donc c'est mon voyage à travers d'œuvres, par exemple, d'un Hamilton Scribe, d'écrivain sud-américain, mais projeté dans un nouvel espace pictural. Et c'est un rêve de liberté, d'histoire réinventée, parce que moi, ce que j'ai étudié, j'ai étudié pour raconter des histoires. Donc là, c'est une autre façon de raconter des histoires. Et donc, c'est un désir profond de représenter l'éternel devenir humain. Pour moi, c'est un peu ça. Et les points de départ d'une recherche en constant mouvement Donc, il y a la relation entre l'imaginaire qui m'habite et les univers oniriques, les histoires, les objets, voilà, porte-bonheur. On n'a pas évoqué voilà, ces parties-là des objets porte-bonheur, qui explorent l'intuitif du geste de peintre. On sait que je n'ai pas fait de beaux-arts, c'est quelque chose assez intuitif. Et que. Voilà, qui est un pour but, une expression que je ne pourrais pas m'arrêter. Maintenant, je ne peux plus m'arrêter. Je suis là-dedans.
En effet, c'est ta deuxième exposition de peinture.
Oh oui, une exposition peinture individuelle, on va dire, oui.
Et alors, par rapport à ta première exposition, il y a un changement, ça suit une progression, ça s'inscrit dans la même démarche ou,
Oui, oui, je pense que ça a assez évolué, oui, ça a assez, c'est assez différent. Donc, la première exposition a été faite à l'atelier, ici à Royères-des-Vassivières. Et voilà, c'était les enfants de l'oubli, avec une thématique assez large sur les enfants un peu issus des guerres. Je parlais beaucoup de mon côté subjectif par rapport à mon histoire des années 80 en Colombie où on se retrouve qui est sur la génération de ceux qui sont aujourd'hui 35, entre 35 et 40 ans. Il y en a pas tellement d'hommes dans ces générations-là parce que voilà ils sont tombés sur cette piège de les cartels de Medellín et les sicarios. Donc il y avait un désir aussi de explorer quelque chose de la mémoire, mais j'essayais de faire quelque chose de plus large. Donc, je parlais aussi un peu de Première, Deuxième Guerre mondiale. Et puis, c'était un peu plus ouverte, cette exploration. Et sur cette deuxième exposition, j'ai fait vraiment une recherche. Voilà, j'ai grandi voilà, avec tous ces écrivains de cette littérature latino-américaine. Mais en plus, pourquoi ces écrivains-là? Pourquoi ces dialogues avec les amulettes? Pourquoi Amulette de Mescribe? Une réflexion un peu plus au-delà de simples gestes et de simples faits de vouloir exprimer quelque chose. Donc, il y a eu ces relations avec les mots, avec les choses, avec les humains, les écrivains, qui c'est là où on retrouve la magie, comme on dit, la Milton Scribe, la magie des mots et des choses, mais la magie aussi des humains, et dans l'occurrence des poètes et des poétesses, et des écrivains de cette poésie et de cette littérature un peu méconnue, on va dire, à l'international.
Alors, tu as peint des portraits, beaucoup de portraits d'auteurs. Comment tu as choisi ces auteurs, justement, parmi la multitude d'auteurs qui existent?
Oui, carrément. Et je pense que j'ai vraiment fait une espèce de réminiscence à des ouvrages et à des passages de ces ouvrages-là qui avaient touché mon âme, mon cœur à un moment donné, et que je souhaitais prendre toute cette force qui avait là-dedans, avec soit Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, Gonzalo Arango, Andrés Caicedo, et tous ces personnages qui ont été vraiment important pour me forger comme personne, comme être sensible. Donc, je pense que c'était assez spontané, cet choix. C'était quelque chose qui venait chemin faisant, on va dire.
Est-ce que ces auteurs, ils ont un rapport avec la magie?
Avec la magie, Octavio Paz, plutôt. Octavio Paz, voilà, c'est un des écrivains qui qui m'ont poussé le plus à explorer cet univers de la magie, des gris-gris, comme on appelle, des porte-bonheur. Et donc j'ai découvert une phrase sur un des ouvrages d'Octavio Paz qui La flemme double, et il parle l'homme qui ainsi contemple ne se propose pas des savoirs. Il veut seulement s'oublier lui-même, se posterner devant ce qu'il voit s'effondre, si c'est possible, en ce qu'il aime. La crainte de la réalité l'amène à la divinité. La fascination et l'horreur les poussent à s'effondrer avec son objet. Donc j'ai retrouvé cette phrase d'Octavio Paz et ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, il y a quelque chose que je souhaiterais tisser avec, en lien avec cette amulette. Je n'ai pas voulu rentrer dans les talismans dans ma recherche, sur toute cette recherche que j'ai faite autour de cette thématique-là. Je me suis rendu compte que les talismans, c'était beaucoup plus délicat que ça. Je me suis dit, ce n'est pas le moment de parler de talisman, c'est complètement voilà, différent. Il y a des enjeux plus magicaux, religieux, sociaux, obscurs même, ça pourrait arriver à cela. Tandis que l'amulette, c'est toujours un objet porte-bonheur et de protection. Donc c'est là que je me suis dit, ces écrivains, pour moi, ont été des porte-bonheur, des objets magiques de relation avec ma peinture. Donc c'est pour cela que je souhaite faire cet dialogue entre ces objets et ces écrivains qui ont marqué mon parcours et ma recherche littéraire.
Nini, tu nous as apporté des morceaux de musique.
Oui.
On va en écouter un maintenant.
Superbe.
Le premier.
Donc c'est Meridian Brothers et on va écouter voilà quoi comme premier. Je t'ai passé plusieurs.
Oui, j'ai le premier dans ma liste, c'est Guaracha.
Guaracha. Oui, on peut écouter Guaracha.
Alors c'est parti. On écoute Guaracha.
Thank you.
Meridian Brothers. C'est la guaracha. Et voilà, la guaracha, qui c'est un genre musical né à Cuba au XVIIIe siècle dans les maisons d'assignation. Et c'est une forme de chanson d'actualité satirique. Et on voit bien là, les motifs, comment ils utilisent la répétition un peu burlesque pour des chœurs et des solistes. Donc voilà, on va vous faire bientôt une émission sur Meridian Brothers, sur la vaina, le petit morceau.
Et nous sommes toujours avec Nini Villega dans le magazine de Radio Oissivière à propos de son exposition Amulet Homme Scribé. On parlait d'amulettes juste avant, d'amulettes, ouais, et d'objets magiques. Alors donc tu as peint des amulettes.
Des objets.
Ouais. Des objets.
Oui.
Des amulettes aussi.
Oui, tout à fait. C'est
d'autres, ça. D'autres objets. Bon, on va commencer, ouais, peut-être par parler des amulettes.
Oui, carrément. Mais oui.
Alors je voudrais savoir qu'est-ce que c'est une amulette.
Alors voilà, donc l'amulette, c'est pour voilà, je pris le nom amuletum, donc qui est du latin d'amulette, donc qui ça veut dire façon de se protéger, et donc c'est un objet qu'on porte sur soi et auquel on accorde des vertus de protection ou qui porte chance. Donc c'est un peu, c'est là la tâche, ou comment dire, c'est ce qu'il doit faire, voilà, c'est cet objet de protection. Donc une amulette peut être une gemme, une statue, une pièce, un dessin, un pendutif, un anneau, une plante, un animal, un geste, etc. Même les mots. Donc là, les mots rentrent à faire une partie essentielle et très importante dans la conception de l'amulette, parce que ceux-ci peuvent, dans certains cas, être utilisés ainsi pour chasser les mâles ou la malchance. Donc moi, j'ai proposé des amulettes en cuir. Il y a plusieurs amulettes qui... à l'intérieur de ces amulettes en cuir, plutôt en Afrique, on retrouve ça aussi chez des communautés indigènes sud-africaines, en Turquie, en Amazonie aussi, on retrouve ces petites amulettes en cuir. Et à l'intérieur, il y a toujours des parfums, des plantes qui vont venir conjurer cet objet et donner cette force et ce pouvoir par levier de mots ou des intentions qu'on met là-dessus. C'est un peu basé dans ce principe des physiques quantiques, de l'observateur. Quand on observe un objet, voilà, ça prend de la valeur, ça prend une fonction. Et après, je tiens bien à vous parler d'un triptyque qui s'appelle voilà, Pat d'Eric Terop. Donc c'est un triptyque que je vais présenter à la médiathèque. Et ceci, c'était, voilà, Éric Thérope, c'est Porte de terre. Et donc, c'est un tissu, c'est une fibre que j'ai amenée de la Amazonie colombienne. C'est une amie laiticienne, Karine Rillet, qui m'a offert ce tissu qui n'est pas commercialisé. Et donc, c'est une fibre qui est prise de Chambiro ou de Kumari. Ça s'appelle comme ça, c'est un palmier qui s'appelle Kumari ou Chambiro. Et cette fibre est utilisée pour fabriquer des costumes pour leur rituel entre eux. Donc, c'est quelque chose d'assez propre, assez intime, on va dire, pour ces moments de partage entre ces communautés. Et puis, j'ai repris les coris. Et les coris, c'était voilà, un clin d'œil à la fertilité et aussi dans la tête de la pâte d'Éric Thérope, il y a une fleur qui s'appelle Héliconia. Et cette fleur, on la retrouve juste dans une certaine zone de l'Amazonie colombienne. La trine frontière, on peut dire, entre Brésil, Pérou et voilà, Colombie. Donc il y a tout un dialogue entre cette protection et la forêt et la fertilité et ces objets voilà, qui vont venir protéger et donner de bonheur, de la chance, de la joie, de la fertilité. Donc voilà.
Il n'y a pas que des amulettes dans les peintures, il y a d'autres objets. On peut trouver quoi ?
Il y a des animaux. Il y a plutôt voilà, animaux, il y a des chèvres. Il y a un troupeau de chèvres qui est. C'est un troupeau de chèvres fait en esthéatite avant 1919 à Pérou. Donc voilà, c'est aussi une technique mixte. Et qui était destiné à protéger les troupeaux des bergers dans les montagnes, dans les déserts. Et après, il y a une figurine précolombienne aussi d'environ 1300 qui a été aussi retrouvée en Pérou et qui fait aussi une espèce d'appel à cette protection vers ces animaux domestiques, ces animaux qui font partie voilà, de cette famille. Et aussi, il y a une figurine qui, c'est un couple pendant les coït, qui fait partie aussi, cela a été retrouvé à La Paz en Bolivie, qui représente aussi les chasseurs. Donc quand les chasseurs sont partis ailleurs, la femme, elle donnait ses petites, c'est un collier, c'est un petit collier, pour que son amour, son amoureux, son conjoint revienne après la chasse. Voilà. La chouette aussi, il y a la chouette, bien reconnue comme un animal porte-bonheur.
Alors ces porte-bonheur en Amérique du Sud, quelle importance ils ont ? Est-ce que les gens s'en servent beaucoup encore ?
Je pense que oui, on a comme une certaine croyance vis-à-vis de porte-bonheur. Ça a été un peu mélangé, je trouve, avec les syncrétismes et avec la religion catholique. Donc il y a une quantité de gris-gris, de porte-bonheur que vont venir plutôt dialoguer avec la religion catholique, donc les petits Jésus, la Vierge, des choses plutôt dans ces genres. Je trouve que dans des communautés un peu indigènes, on peut retrouver les deux. Et surtout par le biais du tissage. Ils tissent plein des objets, voilà, ils séparent avec des objets qui représentent une espèce de protection, par exemple la femme, les femmes, ils sont des ceintures avec des figures assez voilà, spécifiques pour voilà, se protéger, la virginité ou la fertilité, les hommes aussi. Donc, voilà. Il y a une différence, il y a des représentations qui peuvent varier selon les communautés, selon les cultures et selon les régions.
D'accord. C'est difficile, de, moi qui ai vu les portraits, c'est difficile de décrire ton style pour moi avec des mots, mais peut-être que tu vas y arriver mieux que moi. Si tu peux essayer de nous dire, parce que je trouve que tes peintures, elles ont un certain genre particulier, nous donner des éléments pour qu'on puisse un peu comprendre quel genre tu utilises.
Chaque fois qu'on me demande c'est quoi ton style de peinture, j'ai dit c'est avant tout c'est de l'expression vivante, du geste, beaucoup de couleurs. J'adore la couleur, donc il y a un colorisme, une espèce de post-expressionnisme j'essaye d'exprimer, mais je pourrais pas dire voilà c'est abstrait, c'est pas du tout abstrait, c'est plutôt figuratif et coloriste. Et surtout ce qui m'intéresse c'est le dialogue, la combinaison de matières. J'adore partir de l'acré, du fusain, et après en traitant ce jeu de l'acrylique, essayer avec de l'acrylique, de la ouache, pourquoi pas de l'huile, mélanger des techniques qui, dans l'histoire de l'art, la technique un peu académique, c'est pas possible du tout faire ces genres de mélanges, et je trouve qu'il y a une certaine texture et une certaine intérêt pour moi de pouvoir jouer justement avec toutes ces matières, du sable, du barnis, du brouche à lèvres, ce que tu retrouves à la main quand j'ai fait des murales, pareil, de l'encre de Chine, du craie de fusain, tout ce que j'ai pu à ce moment-là j'ai senti comme une voie d'expression ou un matériau qui va venir à donner une force, une texture, une transparence, une nuance. Donc c'est pas évident de vous dire exactement à quoi ça ressemble ma peinture, mais on peut inviter nos auditeurs et auditrices à aller à Saint-Sétier, à la Pommerie. J'ai fait un mural à la Pommerie chez Eric Fessin. C'est un grand mural qui s'appelle le BC Sauvage. Là, il y a quand même un aperçu, un grand aperçu de ce que je fais et ma façon de peindre et ce que j'aime bien exprimer. Amour, oiseaux, des oiseaux, des animaux, la forêt, les plantes.
Est-ce que ce mural, il est plein de couleurs comme j'ai pu voir? Tu as pas mal d'œuvres avec pas mal de couleurs.
Plein de couleurs.
Plein de textures et plein de couleurs.
C'est un voyage dans la couleur, vraiment.
Est-ce que Nini, tu veux qu'on passe à un autre morceau de musique que tu nous as amené? Ça peut être le moment.
Oui, on va continuer avec Meridian Brothers.
Et on écoute Salsa del Zombie.
Ouais.
Se aprieta la sangre entró en coma. alta, el cadáver en la mala, tu familia con él llora, pero muerto ya en vida.
La noche, Alejandra Pizarnik. Je connais si peu de la nuit, mais la nuit semble bien me connaître. Et plus encore, elle m'assiste comme si je le désirais. Elle recouvre l'existence avec ses étoiles. Peut-être la nuit est-elle la vie et le soleil la mort. Peut-être que la nuit n'est rien, toute conjoncture à ses sujets n'est rien, et rien des êtres qui l'ont vécu. Peut-être que les mots seront tous là uniques dans l'immense vide des siècles. On foie l'âme avec leurs souvenirs, mais la nuit c'est la misère qui voit notre sang et nos idées. Elle doit vomir nos regards. Alejandra Pizarnik. Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí. Y más aún, me asiste como si me quisiera. Me cubre la conciencia con sus estrellas. Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte. Tal vez la noche es nada y las conjeturas sobre ella nada. Y los seres que la viven nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos que nos arañan el alma con sus recuerdos. Pero la noche ha de conocer la miseria que debe beber nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de interés, de desencuentros. Alejandra Pizarnik, extracción de la piedra de la locura.
Et ces mots, comme pierre précieuse, brillent dans toutes les nuits, suspendus, prête à se briser aux portes du disciple, aux portes du silence. Et rien n'est promesse entre le disciple qui équivaut à mentir. Tout ce que l'on peut dire est mensonge, le reste est silence. Sauf que le silence n'existe pas. Nous sommes toujours avec Nini Villegas. Nous venons d'écouter le morceau Salsa del Zombie.
Voilà. Des Meridian Brothers.
Des Meridian Brothers. Nini, on parlait de mural.
Oui.
Peinture murale.
Peinture murale.
Tu as fait un mural à Plazarte.
À Plazarte.
Peux-tu nous dire où ça se situe déjà?
Donc Place Arte est une, c'est un centre culturel, c'est un patrimoine de l'humanité, de l'UNESCO. C'est à le quartier Prado Centro à Medellín, à Medellín. Et voilà, ça c'était suite à la résidence que nous avons fait avec les artistes des Toulouse, de l'artiste Pierre Redon. Voilà, on a fait une tournée de décembre 2016 à avril 2017. Donc on a voyagé avec plus de 7 musiciens, un Julien aussi, un lycée des Royères qui a fait voilà, l'ingé son. Et puis à la fin de cette tournée, il y avait un mur qui ressemblait à rien du tout. Donc voilà, Place Arte m'a proposé cette mur pour intervenir. Et voilà, j'étais ravie. C'était... voilà, quelque chose assez chouette de, voilà, de, après de tous ces temps de travail, de boulot, 3 ans de diffusion avec ces projets. Donc c'était un moment un peu de catharsis, de, un peu d'explosion sur cette mur où j'ai voulu peindre les chuchotements de la forêt. Okay. Et le susurro de la selva. Donc je prie, moi j'adore les portraits, je souhaiterais continuer mon chemin dans la peinture, surtout sur des portraits. C'était voilà, Hamilton Scribe, c'était la première fois où je retraitais des objets. Moi j'adore les visages. Je trouve qu'il y a toujours une histoire, il y a un cosmos qui pétille dans chaque pupille, dans chaque regard. Donc j'ai parti d'un chaman de l'Amazonie, voilà, de la Trifrontière, Colombie, Pérou, Brésil. Et tout autour, je fais des animaux, des oiseaux, toujours les oiseaux sont assez présents dans ma recherche. Et puis, je fais les centres culturels Place Arte dit que je fais au moins 5 murales différents parce que j'y allais toujours. Je disais, ouais, je vais repartir plutôt vers là-bas. J'ai changé les oiseaux, je faisais des reptiles, je faisais des différentes choses. Mais je sais pas, c'était quelque chose inconscient, parce que je voulais pas que ça s'arrête, je voulais continuer. Donc je transformais toujours, et bon, à peu près une semaine avant de revenir en France, je me dis, bon, là, c'est vraiment la fin. Donc, j'ai fait les dernières touches avec des textures et des détails assez fins, avec de l'encre de Chine, avec de tout petits pinceaux. Et voilà, où je faisais bien les feuilles, toutes les formes, voilà, la composition d'une feuille, et aussi chaque petit détail des plumes des oiseaux. Et voilà, c'était... les chuchotements de la forêt. Et puis, voilà, c'est un mural qui est resté au Centre culturel Place Arte à Medellín.
Je te poserai bien d'autres questions sur les murales, mais je sais que tu as envie de parler un peu des auteurs qui composent ton exposition, et il nous reste un peu plus, à peine 10 minutes pour terminer.
D'accord.
Donc si tu veux parler d'un auteur en particulier, c'est le moment. Un portrait au choix.
D'accord. Je souhaiterais parler des deux auteurs qui ont été assez importants pour moi à un moment donné. Donc c'est le maître Fernando González, les maîtres à pied, et le maestro à pied, les lutins des autres parties, autres lieux, on peut dire comme ça, et Gonzalo Arango. Donc il y a un mouvement, il y a eu un mouvement en Colombie que s'appelle parce qu'il existe encore, le nadaïsme, voilà, qui vient de néant, de rien. Et c'est très basé dans la philosophie du néant, donc ce mouvement du nadaïsme est fondé par Gonzalo Arango en 1958 et assez influencé par le nihilisme, l'existentialisme et la pensée d'un écrivain, un philosophe. Et voilà, il était aussi diplomate, Fernando González Ochoa, que c'est voilà, les maîtres à pied, donc qui a écrit tout son ouvrage en marchant. Donc il marchait, écrivait, marchait. Donc ces réflexions, il s'était toujours issu de ces réflexions qu'il faisait en cheminant, en marchant. Et voilà, c'est comment un deux piliers des sources d'inspiration pour moi. Voilà, les nanaïsmes, beaucoup de théâtre, là-dedans, beaucoup d'ironie, avec un esprit bien propre des années fin 60, début 70, un peu rebelle, anti-religion, anti-caton, anti-tout, quoi. C'était les néants. C'est les néants et tout, et les tout et les néants. Bon, el todo es todo, et a la vez es nada. C'était comme un des argumentaires, on va dire, de ces écrits.
Et dans son portrait, qu'est-ce que tu as mis, toi, pour... qu'est-ce que tu as voulu faire transparaître quand tu as peint son portrait?
Et, bon... Avec Gonzalo Arango et Andrés et Fernando González. Donc, j'appelais ces tableaux, c'est un format moyen, obra negra, œuvre noire. Et donc, c'est les manifestes de Gonzalo Arango où il parle de tout ce qui voilà, l'entoure, tout ce qui est le nadaïsme, tout ce qui tous ses pensées. Et puis, je suis partie d'un fond assez libre, en rouge, blanc et noir, et un peu des lignes avec des répétitions un peu hypnotiques. Et après, j'ai repris une photo que c'est, on peut dire, les clichés, la photo cliché de Gonzalo Arango. Mais là, j'ai voulu représenter Gonzalo Arango un peu plus jeune, plus style Les Petits Princes, un peu rêveur, innocent. Et bon, sachant qu'il a été, il a eu beaucoup de problèmes auprès de la justice, de l'Église catholique à Medellín. Il était des Andes, Antioquia, c'est voilà, une région. Mais après, voilà, il est déménagé à Medellín. Donc, il a fait une espèce de performance, provocation, où dans une des places en face du conservatoire de musique de l'université d'Antioquia, il a mis tout un tas de bibles et il a tout brûlé. Donc, ça, c'était scandaleux pour les années 60-70, c'était hérétique, c'était, mais c'est pas possible, c'est prison, c'est tout de suite. Donc voilà, il avait toutes ces démarches un peu hargneuses contre, vraiment c'était direct, il cachait pas, il envoyait pas des mots de travers, c'était direct. Contre la religion, contre la politique, contre les systèmes, contre ces façons d'être de cette bourgeoisie catholique aristocrate des fins des années 60 et début des années 70. Et voilà, les maîtres à pied, avec El Maestro à pied.
El Maestro à pied, un autre auteur ?
Fernando González, donc bien. On parle de même auteur, il n'y a pas de souci. Donc j'ai appelé cet ouvrage El Duende d'autre part, okay. Qui est les lutins d'un autre lieu. Et à celle-ci, voilà, il était plus âgé que Gonzalo Arango, qui d'une certaine façon, il était un peu le maître de Gonzalo Arango. Donc on parle de mêmes auteurs. Et là, je suis partie un peu sur des couleurs un peu qui évoquent les feux. Et après, j'ai fait un jeu de transparence avec de l'encre de Chine, des craies, Et voilà.
Ok. Il nous reste encore un peu de temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en portrait dont tu voudrais faire un petit point tout de suite, nous présenter?
Oui, je pense bien. Ouais. On a lu quelques extraits.
Oui.
Tu as très très bien lu. Tu n'as pas voulu lire en espagnol, mais bon, tu as lu en français un des extraits d'un ouvrage que j'ai trouvé magnifique, que c'est L'extraction de la pierre de la folie d'Alejandra Pizarnik. Donc, il faut savoir qui est Alejandra Pizarnik. Elle a été une journaliste qui a vécu pas mal de temps à Paris, voilà, comme piégiste. Elle travaillait à Paris et elle m'a marqué beaucoup par sa façon d'écrire et sa relation avec toujours avec la nuit, avec. Avec cette espèce d'angoisse de l'existence et comment elle prenait la force de cette angoisse et de cette proximité entre l'enfer musical, par exemple, que c'est un de ses ouvrages, La Comtesse Sanglante, comment le fait de l'idée de la mort la nourrissait. C'était comme ce qui alimentait son âme. Elle écrivait comment je vis pour un jour pouvoir trouver la façon parfaite de mourir, un truc comme ça. Mais on trouve qu'il y avait un esprit assez perturbé, assez puissant, mais impuissant en même temps pour justement cette espèce des liens entre la nuit, la mort, la folie. Un peu, je pense qu'elle était touchée par des comportements un peu psychologiques, un peu... limite, on va dire. Mais, donc, je fais ces triptyques que j'ai eu des retours qui étaient assez forts, me fait un peu peur, celle-ci, celle-là. Et donc, elle est un peu ancrée. Et ce que j'ai voulu exprimer, ce que j'ai voulu transmettre, c'était ces moments où elle... ouvre les gaz chez elle et elle s'étouffe dans les mêmes gaz et elle meurt comme ça. Donc j'ai dessiné ses côtes juste à côté d'elle et cet état où elle a plus elle peut plus respirer, donc elle est étouffée de ces mêmes gaz. Donc on parle encore de notre écrivaine qui s'est suicidée d'une autre façon. C'est pas pareil, Alphonsine, c'est plus poétique, plus la mer. Là, c'est un peu plus. Mais il a réfléchi, elle a très très bien réfléchi de cette façon. Il avait tenté déjà plusieurs fois de se suicider. Et enfin, il a réussi de cette façon. Donc voilà comment l'extraction de la pierre de la folie est reflétée sur ces triptyques d'Alejandra Pizarnik.
Merci Nini.
Merci.
Il nous reste un peu moins de quelques secondes. Si tu veux rajouter quelque chose qu'on n'a pas évoqué en l'espace de pas longtemps, c'est le moment.
Merci. Merci de m'avoir invité.
Merci d'être
On n'a pas parlé de l'EHPAD. Merci à l'EHPAD, Françoise Tamalet. Merci à la médiathèque des Royères de Vassivière, Rémi Tamalet, Dominique et tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à toutes et à tous. Merci.
Merci Nini. C'était Nini Villega à propos de son exposition à Milletom Scribé. Je rappelle que si vous passez vers Saint-Sautier, vous pourrez apercevoir un de ces murales à la Pommerie.